Source éducative, un podcast original d'Essentiel Radio. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
Bonjour à tous et bienvenue dans Source éducative, le podcast d'Essentiel Radio qui parle pédagogie, éducation et transmission. Vous êtes tous les bienvenus, parents, familles, professionnels de l'éducation, animateurs, éducateurs ou tout simplement citoyens du monde. Si vous avez à cœur de transmettre, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, je retrouve avec beaucoup de joie mon amie Françoise Caron. Bonjour Françoise.
Bonjour Christine.
Alors je suis très heureuse de t'avoir avec moi en studio pour parler d'un sujet aussi complexe que sensible, l'accueil scolaire des enfants en situation de handicap. Un sujet qui te tient, je crois, particulièrement à cœur Françoise et sur lequel, en tant que présidente de la Fédération Nationale des AFP, tu as su développer une vraie expertise. C'est un sujet que les AFP abordent, on va dire, régulièrement.
Alors on l'aborde régulièrement et on essaye vraiment d'être attentif non seulement aux besoins des familles, donc des parents qui ont des enfants en situation de handicap ou un conjoint, mais comment aussi on peut donner des réponses adaptées. Donc, préoccupés au quotidien et à l'écoute des besoins sur le terrain.
Alors, on le sait, le parcours scolaire d'un enfant porteur de handicap inquiète les familles. Quel choix faire? Quel dossier remplir? Comment obtenir une place dans l'environnement scolaire qui va correspondre au mieux à l'enfant? Sachant que des places, malheureusement, il en manque. Quel choix faire pour maintenant et en même temps, il faut penser à l'après. Le sujet mérite d'être abordé avec beaucoup de sensibilité, je crois, et aussi beaucoup d'humilité, puisque selon les handicaps, les réponses ne peuvent pas non plus être les mêmes. Françoise, je te remercie vraiment de venir libérer la parole à ce sujet. Une parole de personne elle-même en situation de handicap, ça c'est précieux. Mais une parole aussi qui intègre la perspective des équipes enseignantes, puisqu'on va le rappeler, tu es aussi la présidente de l'association gestionnaire d'un établissement scolaire en région parisienne, le Petit Prince. Et une parole, comme déjà dit, qui représente aussi celle des familles. Enfin, et ça, je crois qu'on en a aussi particulièrement besoin, une parole chrétienne au service de l'espérance et de l'amour. Alors, première question Françoise, de ton point de vue, quelles seraient les actions prioritaires à mettre en place dans les écoles pour progresser dans la prise en compte du handicap? On a des injonctions évidemment du ministère, les lois ont évolué, on a des textes, on a un cadre, des plans même, mais on n'a pas toujours les moyens pour mettre en œuvre les directives.
Et oui, et c'est bien le problème, c'est qu'on a des jolis slogans et plein de bonne volonté, mais il faut des moyens. Moyens financiers, il y en a un petit peu de débloqués à l'éducation nationale, mais peut-être plus encore, on a besoin de gens formés qui ont conscience de la réalité de ce que vivent ces enfants en situation de handicap, de ce qu'ils font vivre aussi à leurs camarades en classe et à leurs enseignants. Alors quand je dis de ce qu'ils font vivre, pas du tout au sens péjoratif ou négatif, mais ils font vivre quelque chose de différent auquel on n'est pas forcément formé et en capacité de répondre avec bienveillance, avec des outils adaptés. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut se pencher plus encore que sur les moyens financiers. Une réponse de formation, une réponse d'accompagnement et puis d'écoute des besoins qui ne sont pas les mêmes en fonction du handicap aussi.
Excellent, une réponse de formation et d'accompagnement parce que ces enfants ne sont pas seulement différents, ils font vivre aussi quelque chose de différent. Merci de l'avoir souligné Françoise. Alors en attendant qu'il y ait des changements au niveau national, au niveau des moyens financiers, plus de moyens humains aussi, qu'est-ce qu'on peut peut-être déjà faire, nous, à l'échelle associative, celle notamment des établissements scolaires indépendants qui, comme toutes les écoles, sont aussi sollicités pour accueillir de façon individuelle, en classe ordinaire, des enfants en situation de handicap?
Alors, on fait déjà des choses et ça, c'est toujours le côté positif. Je crois que nos petits effectifs sont un facteur facilitant pour l'accueil d'un enfant en situation de handicap dans une classe. On peut être plus attentif, s'asseoir plus facilement à ses côtés. Donc ça, je dirais, c'est le point positif qui existe déjà. Mmh. Après, on a aussi une liberté dont on doit profiter au niveau des programmes pédagogiques, de la possibilité qui nous est offerte de faire aussi la classe en plein air, avoir plus de manipulation. C'est-à-dire que le cadre est moins contraignant, même si les résultats doivent être les mêmes. On est là pour transmettre à l'enfant, pour lui apprendre à développer son petit cerveau et son esprit critique, mais avec des outils, un temps et des moyens tout simples, mais qui nous poussent à une créativité qui va s'adapter non seulement aux besoins de l'enfant en situation de handicap, mais aussi aux groupes classes.
C'est ça. Les écoles indépendantes sont la plupart du temps des structures plus souples. Et donc, elles peuvent aussi être plus créatives en matière d'inclusion, en tout cas plus réactives. et avec des réponses peut-être plus immédiates dans le ici et maintenant.
Bien sûr. Et puis peut-être l'autre moyen aussi, c'est qu'on a un apport de bénévoles non négligeable avec des gens compétents, des professionnels, éducateurs, psychologues, qui peuvent aussi venir renforcer nos équipes sur des temps particuliers pour former nos enseignants, mais aussi pour nous amener des outils et puis peut-être renforcer un peu ces temps où l'enfant, l'élève, en situation de handicap, va s'approprier de façon plus aisée ce qui va lui être proposé par un professionnel qui connaît bien son propre handicap ou le champ du handicap de façon plus générale.
Alors ça, merci de le souligner, Françoise, parce que c'est une vraie bonne nouvelle pour les familles. On insiste souvent sur le fait que les écoles indépendantes privent les familles de certains circuits ou de certaines ressources en matière de scolarisation du handicap, et c'est vrai. Les AESH ne sont pas financés si la famille fait le choix d'une école hors contrat. Les conseillers ASH d'adaptation scolaire et handicap n'existent pas dans le milieu des écoles indépendantes. Les infirmiers scolaires, psychologues, l'équivalent des dispositifs RASED, tout ça, c'est plus difficile à trouver dans le milieu du hors contrat. Et du coup, ça nécessite des familles très impliquées qui comprennent qu'elles vont être moins guidées, qu'elles vont devoir accepter un parcours du combattant, prendre l'initiative de frapper aux portes, de chercher les réponses, etc. Donc ça, c'est absolument vrai. Mais c'est important aussi qu'on puisse dire aujourd'hui que ces établissements ont aussi des ressources en interne ou en tout cas font un travail de réseau qui permet de développer des passerelles vers des prises en charge extérieures qui peuvent être souvent davantage ajustées aux familles. Ça, je crois que c'était vraiment important de le dire.
Source éducative. Un podcast original d'Essentiel Radio.
Une chose demeure, en tout cas, dans le privé ou dans le public, c'est la difficulté d'annoncer à une famille que la scolarisation au sein de l'établissement choisi n'est pas ou n'est plus possible, ou en tout cas nécessite des passerelles vers des prises en charge extérieures. Quel conseil donnerais-tu, Françoise, pour les équipes qui forcément rencontrent un jour ces situations ?
Alors, il y a déjà la détection du handicap, il y a les handicaps lourds, auxquels les parents vont être confrontés très très vite. Et là, souvent, c'est les équipes médicales qui posent le diagnostic, oui, et qui vont les aider après à être en lien avec les services sociaux, la MDPH, la maison du handicap. Et donc, on arrive, nous, un petit peu après les écoles. Mais il y a aussi tous ces enfants où, en situation de scolarisation, va se révéler quelques difficultés qui n'apparaissaient pas comme une infirmité ou quelque chose qui les prive d'une capacité à bien apprendre ou à bien vivre la discipline d'une école. L'école est souvent un révélateur de quelque chose qui peut préoccuper. Et là, c'est difficile parce que le parent investit tout pour son enfant et souvent, il va dire « mon enfant est turbulent », il est un peu indiscipliné, il se cogne beaucoup, il crie fort. Donc, pour le parent, c'est une question de discipline et d'éducation. Donc, souvent, il se remet en cause, en question. « Je ne sais pas faire, vous allez faire mieux que moi. » Ou alors, il ne se remet pas du tout en cause. Et il estime que quand on lui renvoie la petite difficulté à l'école, c'est que nous, on ne sait pas faire, c'est que les enseignants ne savent pas faire. Donc, il y a vraiment besoin d'un petit réajustement là pour pouvoir identifier un petit peu ce que l'on ressent et en parler aux parents en dehors de tout ce qui va donner aux parents le sentiment d'être coupable. Coupable parce qu'il ne sait pas éduquer son enfant, coupable parce qu'il n'a pas vu, coupable parce que peut-être qu'il sent bien qu'il y a quelque chose, mais qu'il ne sait pas comment l'exprimer, vers qui se tourner. Donc l'enseignant va à ce moment-là être un facilitateur aussi d'une parole poser qui n'enferme pas son enfant dans une posture d'enfant en situation de handicap, qui ne l'étiquette pas, mais qui va faciliter le lien avec le médecin généraliste, avec un spécialiste. Et on est là ensemble pour rechercher ce qui va être le mieux pour l'enfant. Moi, j'aime beaucoup ce côté toujours ensemble, on marche ensemble, bras dessus, parents-enseignants. Il y a quelque chose qui doit bouger et qui est bon pour l'enfant. Ma propre histoire me renvoie aussi à ce besoin de communication où mes parents me disaient que j'étais turbulente, que j'étais indisciplinée. Je commence à l'école et là, distraite, il y avait plein de petits qualificatifs comme ça que je ne comprenais pas. Mais d'ailleurs, j'étais une petite fille étourdie, donc je pensais l'être. jusqu'au jour où, en deuxième année de maternelle, l'enseignante, au bout de quelques mois, quelques semaines même, je pense, appelle mes parents et leur dit « Écoutez, je crois vraiment qu'il y a autre chose que le côté étourdi de votre fille, mais il me semble qu'elle a peut-être un problème visuel. Il y avait quelque chose de « peut-être, vous devriez voir, ça aiderait ». Et ça a été le déclencheur de tout un parcours qui, en effet, a permis de poser un diagnostic extrêmement sévère, hein, celui d'une malvoyance profonde et d'une cécité possible. Mais l'enseignante avait facilité l'envoi vers ce spécialiste. Et après, mes parents me disaient que ça les avait effleurés. Ils avaient eu un doute, mais pas suffisant pour aller jusqu'au bout. Donc, je pense vraiment que les enseignants, là, ont un travail de facilitateur du lien au monde médical qui fait peur quand, à l'école, d'un coup, on se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas comme ça devrait.
Ce qui est toujours délicat, je trouve, c'est qu'on est à la fois dans une recherche de ne pas perdre de temps. Il faut prendre en charge le plus tôt possible pour répondre aux besoins de l'enfant, pour pouvoir mettre en place aussi les aménagements auxquels il peut avoir droit. Et en même temps, il faut laisser le temps, il faut cheminer au rythme de la famille. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Françoise, aux équipes pédagogiques pour peut-être les aider aussi à patienter, à donner du temps aussi?
Les enseignants doivent aussi accepter une observation peut-être un peu plus longue pour pouvoir bien communiquer aux parents, même si souvent, ils comprennent, ils savent, ils découvrent qu'il y a vraiment quelque chose qui va être pris en compte. Mais le temps d'observation un peu plus long va leur donner aussi des éléments factuels, concrets. Et il me semble que parfois, on peste un peu hein, face à ces services qui font les bilans, je pense à Debré ou ailleurs, des enfants. Avant 6 ans, on ne peut rien diagnostiquer et on peste un peu parce qu'on aimerait que ça aille vite. Mais ce temps permet de préparer les parents, d'apaiser les tensions. Ça permet à l'enfant d'évoluer un peu. Et en parallèle, on peut quand même mettre des choses. Hein. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place sans qu'il y ait diagnostic. C'est simplement se dire, bon, il n'y a pas de diagnostic. Peut-être on se trompe, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit plus apaisé? Qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il prenne son temps dans telle activité? Ce temps est nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'isoler un peu du groupe? Parce qu'on sent que le bruit, la lumière, les couleurs, c'est comme un excitant. Donc voilà, on commence à avancer avec quelques billes, quelques éléments pédagogiques dont on dispose en fonction un petit peu de ce qu'on a repéré chez l'enfant. Donc on ne perd pas tant de temps que ça. Mais on est en route vers un diagnostic qui sera nécessaire à un moment donné, notamment au passage en CP.
Source éducative, un podcast original d'Essentiel Radio.
Parfois, il peut arriver que les familles ne soient pas dans une dynamique de collaboration, qu'elles soient même dans le déni et qu'elles refusent le discours de l'équipe éducative, aussi prudent et bien amené soit-il. J'imagine que tu as déjà été confrontée à cela. Comment faire, selon toi, lorsqu'une famille peut avoir du mal à cheminer avec une équipe enseignante sur ces questions?
Voilà, je crois que nous aussi, on est confrontés à notre impuissance. Parfois, cette impuissance de communiquer aux parents hein, la réalité d'une situation extrêmement préoccupante. Donc, c'est déjà accepter ça. C'est je me remets en question. J'ai en face de moi des parents qui sont dans le déni et qui ont leur propre raison, leur propre cheminement, ce qui fait qu'ils bloquent. Donc, on n'est pas dans c'est les mauvais, on est les bons, on est face à quelque chose d'impossible.
C'est ça.
Mais au milieu de ça, il y a un enfant qui, lui, a besoin d'être pris en compte avec sa souffrance, avec ses dysfonctionnements, parfois neurologiques, fonctionnels. Et je pense que l'important est de pouvoir dire aux parents « je suis impuissant, nous sommes impuissants ». Il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. On a vraiment le sentiment qu'il y a besoin de plus d'aide, mais on ne peut pas le faire sans vous.
C'est une adaptation plus grande, oui.
Voilà. Donc, l'enfant serait en danger de ne plus pouvoir apprendre, d'être malmené, de se sentir incompris si on ne met pas fin à cette collaboration qui n'est plus possible. Et ça, c'est difficile, hein, parce qu'on est plein d'empathie pour ces gamins. Je crois que l'équipe éducative se mobilise, nos enseignants donnent du temps et sont pleins d'espérance. Mais il n'y a pas de possibilité de travailler avec et pour l'enfant si le parent ne collabore pas à l'éducation de l'enfant et donc à la prise en compte de la nécessité aussi de se faire aider pour comprendre ce qui se passe chez l'enfant. Ce sentiment d'impuissance doit être verbalisé et puis il va se traduire parfois par... on finit l'année le plus posément possible et puis
on s'arrête là.
On s'arrête là et on vous encourage à trouver un établissement où vous pourrez, vous, communiquer avec l'équipe sur la base de votre assurance que l'enfant va bien et puis eux vous diront s'ils peuvent ou pas. Quoi. Je crois que c'est-à-dire ne pas fermer la porte de l'après en dehors de nous.
C'est ça.
Surtout pas. Voilà, il faut qu'on se garde de ce qui va peut-être un peu, par irritation, frustration ou tristesse, nous faire poser des mots que le parent va recevoir et qui ne vont pas l'aider à aller plus loin. Alors que l'intérêt, c'est qu'il puisse, après nous avoir quittés, réfléchir sur ce qu'il a vécu avec nous, sur ce que son enfant a vécu avec nous, pour aller plus loin. Quoi. De rester plein d'espérance, même après nous. Même quand ce n'est pas nous qui avons pu ouvrir cette voie.
Alors justement, puisque tu parles de l'après, je trouve que des fois, nos écoles pourraient avoir la capacité de prendre en charge l'enfant, de le garder un petit peu plus longtemps, de l'amener plus loin, peut-être pas jusqu'au bout, mais en tout cas plusieurs années pourraient être gagnées. Et parfois, nos établissements sont même la meilleure solution à ce moment-là. Mais ce qui peut faire peur, c'est l'orientation, c'est le après, avec toujours cette crainte de mettre encore plus en difficulté l'enfant pour trouver sa place, pour trouver une place, en sortant d'un établissement hors contrat. Selon toi, Françoise, comment est-ce qu'on peut préparer cette sortie de l'établissement, cet après, alors qu'on le sait, l'orientation est pleine de contraintes aujourd'hui?
Alors c'est vrai, c'est une vraie réflexion. On s'est questionné aussi dans le cadre des associations familiales protestantes et avec les parents que l'on accompagne et qui sont aussi confrontés à ça et avec les enseignants. Je crois qu'il faut penser à l'après sans qu'il n'hypothèque le présent. Et que tout ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut amener l'enfant, je crois qu'il faut le faire, mais sans se voiler la face. C'est-à-dire qu'il y a un moment où nous, on ne pourra plus et où il faudra passer la main. Et parfois, on se dit, mais à qui?
C'est ça.
À qui on passera la main? Quels établissements? Donc, il faut se poser la question, il faut la verbaliser avec les parents, avec l'inspection académique, qui est quand même le premier partenaire, y compris des écoles privées hors contrat. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à les tarabusquer, hein, les pousser dans leur retranchement, parce qu'il y a aussi des gens extraordinaires dans ces services-là. Hein. Contacter la maison du handicap, quand je veux dire, il faut aussi alerter tous les réseaux autour pour leur dire, nous, on tient bon, on sait qu'on fait un bon travail, on voit l'enfant évoluer, mais il y a un moment, il va devoir nous quitter. Et on veut pouvoir ouvrir une voie pour lui, pour qu'il y ait un après nous.
Après nous.
Mais il ne faut pas que ça hypothèque notre possibilité de faire tout ce qu'on peut faire dans le temps où on peut le faire.
Excellent. Toujours chercher à accompagner le possible. Et puis, comme tu l'as si bien dit, ne pas hypothéquer le présent en pensant seulement à l'après. Alors, j'ose quand même la question, Françoise. Et si, malgré les efforts de chacun... même si on a essayé de créer autant de passerelles que possible vers des associations de parents, vers les autorités académiques ou municipales, même si on a essayé de prolonger l'action de l'école au-delà de l'école avec des partenaires dans le soin, dans le paramédical, etc., etc. Comment réagir si la situation reste malgré tout académiquement sans issue? Est-ce que peut-être tu as des témoignages pour encourager des familles à ne pas se résigner?
Alors toujours exprimer ce sentiment d'impuissance, mais pas de désespérance. C'est pas parce que je suis impuissant, c'est pas parce que je ne peux pas, qu'il n'y a pas un chemin qui se fraye dans le désert et qu'il n'y a pas des sources là, même improbables et invisibles. Donc c'est vraiment rester aux côtés malgré tout et avec vraiment cette conscience qu'on ne doit jamais se résigner face à ces situations qui semblent dramatiques et sans issue. Mais il y a toujours un chemin qui va s'ouvrir. Et combien on a de témoignages de parents qui se sont battus, qui ont tout mis en œuvre, qui ont lutté pendant des années et heureusement, hein, qui ont vu des choses s'ouvrir, déboucher sur du beau et du bon pour leurs enfants. Donc espérer contre toute espérance. Ça, c'est important. Et puis après, c'est aussi se dire que parfois, on a aussi un chemin comme ça tracé par lequel on est convaincu que nos enfants doivent passer. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne promeux pas absolument l'école pour tous. Il y a des enfants en situation de handicap qui ont besoin d'autres choses que l'école classique, même avec une bonne prise en charge, qui ont besoin d'un lieu beaucoup plus paisible, plus adapté. Donc là, on a des associations qui propose une scolarité autre. John Boss fait un boulot magnifique avec les enfants dans ce domaine-là. Il y a une prise en charge sanitaire, psychologique et avec des apprentissages qui sont complètement adaptés à ce que l'enfant peut percevoir, comprendre. Donc, attention aussi à ce slogan qui veut faire croire à tout parent que son enfant a droit à l'école. C'est un droit, comme le droit au logement. C'est bien différent. Oui, il a droit à ce qu'on prenne soin de lui, à ce qu'on lui permette d'acquérir tous les apprentissages qui vont l'aider à s'élever. Mais peut-être que son droit, justement, c'est aussi d'avoir un établissement spécialisé. C'est son droit à vivre les choses autrement, avec quelqu'un qui vient à domicile. Et puis, les choses évoluent, changent dans le temps. Mais voilà, on a aussi des schémas, à mon avis, dont il faut qu'on sorte pour pas faire croire aux parents que tout est possible parce qu'on a des slogans, voilà, tout fait, mais qui sont un peu une utopie.
Une hospitalité, finalement, qui reste conditionnelle. Et ça aussi, c'est important de le souligner. Françoise, est-ce que tu as été confrontée, toi directement, en tant que porteuse de handicap ou dans ton entourage, à des situations où l'école n'a pas assez dit stop, n'a pas assez marqué la limite? L'école serait allée trop loin au détriment de l'enfant, on lui en a trop demandé, on l'a trop challengé, on a essayé de l'amener là où il n'était pas capable d'aller.
Complètement. J'ai vu des enfants, alors même avec des handicaps qu'on dit plus légers, entre guillemets, hein, mais craquer complètement, avec une phobie de l'école, sombrer dans la dépression parce qu'il y avait une confrontation à une charge mentale, une pression physique qui lui était demandée avec beaucoup de bienveillance, avec une extrême bonne volonté, mais c'était trop, quoi. Je pense à une petite fille où vraiment sa lenteur, son rythme tortue, véritablement, lui permettait de progresser jusqu'au moment où l'enseignante était sûre qu'elle pouvait faire mieux, était sûre qu'elle pouvait courir plus vite. Et je pense à elle parce qu'il y avait même eu de mis en place des défis. Un exercice, et puis deux, et puis trois, le chronomètre au niveau de la lecture, jusqu'au moment où la petite fille a craqué complètement, quoi. Ça a été l'effondrement en larmes et elle ne voulait plus aller à l'école. Vraiment, j'ai cette petite fille en tête et je pense que c'est un exemple qui doit nous interpeller pour aussi être vigilants sur ce qu'on demande à l'enfant et jusqu'où il peut aller et dans quelles conditions.
Alors, pour éviter d'en arriver à ces situations catastrophiques, mais qui, hélas, sont bien réelles, tu as parlé de plusieurs choses, Françoise, de la nécessité d'une parole vraie de la part des équipes enseignantes, que les familles sachent, que les familles entendent, il y a une limite. Tu as parlé également de la nécessité de se former, de devenir plus habile dans le repérage, mais aussi dans la prise en charge dans les classes. Il faut aussi parler d'inclusion pédagogique. Il ne s'agit pas juste d'une question de porte. On ouvre la porte ou on la ferme à un élève. Non, une fois que la porte elle est ouverte, il y a tout un travail, une inclusion pédagogique à réaliser. Et puis, la nécessité de prendre le temps. Est-ce que, Françoise, dans le prendre son temps, tu inclus aussi les situations de maintien dans un même niveau, ce qu'on appelait autrefois le redoublement? Pour des enfants en situation de handicap.
Non, mais j'aime pas ce mot. Voilà,
personne
le
l'aime.
Redoublement. Mais oui, parce qu'au fond, on a besoin de plus de temps. Et je crois que c'est important de bannir ce mot de nos têtes, mais de revenir quand même à la nécessité du besoin de temps pour certains enfants. Et d'ailleurs, pas que des enfants en situation de handicap. Mais on court pas tous aussi vite. On nage pas tous aussi vite. Même si on sait nager, même si on sait courir. Je crois qu'on a oublié ce rythme biologique, psychologique et intellectuel qui est différent d'un enfant à l'autre. Alors peut-être que parfois, on a besoin de 3 années pour en faire une bonne. Mais dans le temps, qui saura combien de temps on a mis pour apprendre à lire? Qui saura combien de temps on a appris pour calculer? On verra un homme ou une femme épanouie avec un métier qu'il a choisi, peut-être un métier manuel, peut-être un métier d'artisan, mais même on arrive à voir des gens qui ont réussi avec beaucoup de temps à entrer dans des études longues et dont ils ne sortent même plus tellement ils ont pris le goût aux études. J'ai entendu un interview sur une chaîne nationale d'un jeune homme qui faisait un deuxième master et qui expliquait qu'il était dysphasique et qu'il avait mis un temps fou, mais qu'il avait pris un goût aux études en prenant le temps dont il avait besoin pour aller au bout de ce qu'il devait faire. Donc là aussi, je crois que le pas de redoublement.
Donc, on bannit le terme,
ouais.
Mais néanmoins, on prend le temps. Donc,
mais on prend le temps.
De maintenir un oui. élève dans le même niveau peut être salvateur.
Complètement. Et d'ailleurs, je crois que si on lui propose comme ça, si on lui dit « tu as besoin de temps et ce temps te permet de progresser », on va aussi le dégager d'une forme de culpabilité de ne pas y arriver. Mais c'est terrible aussi pour un enfant de se retrouver en CM2 alors qu'il ne sait pas lire ou juste déchiffrer un peu. C'est aussi une forme de maltraitance que de les obliger de marcher au même rythme et de devenir quelque part la risée de la classe. On parle de moquerie parfois et de harcèlement, mais en tant qu'adulte, est-ce qu'on n'expose pas ses enfants aussi au mépris des autres? Donc voilà quoi, ce temps est précieux pour le diagnostic, pour que les parents prennent conscience du besoin de leur enfant, mais ce temps est aussi nécessaire pour que l'élève lui-même puisse acquérir ce qu'il peut acquérir avec son propre rythme et ses capacités à se saisir en une heure, en une semaine, en trois ans.
Source éducative. Un podcast original d'Essentiel Radio.
Alors, on parle depuis tout à l'heure du regard qu'on pose sur l'enfant avec l'espoir de le faire avancer sans pour autant basculer dans le trop et dans le forçage. Dans les écoles indépendantes chrétiennes, on va particulièrement avoir ce souci de maintenir un regard plein d'espérance pour les enfants en situation de handicap et on va aussi, dans des temps d'équipe, prier pour ces enfants. Quand on prie pour les enfants à besoins spécifiques, Françoise. On prie pour quoi ?
D'abord, on prie pour eux, comme pour tous les autres enfants. C'est des créatures magnifiques. L'enfant est un don de Dieu. Et puis après, au moment où je dis ça, je m'imagine les larmes de cette maman qui dit « Oui, il est beau à cause de l'amour que j'ai pour lui, mais quel avenir pour lui ?» Et je crois que là, la prière va se transformer en prière pleine de compassion aussi pour ses difficultés. Pleine de compassion pour tout ce qui est vécu de difficile à la maison. Et la compassion va nous amener à mettre d'autres mots et à nous souvenir qu'il n'est pas oublié de Dieu. Combien le fait de savoir que Dieu ne m'avait pas oublié, bien que je sois malvoyante, m'a permis de prier autrement. Et je pense vraiment que nos prières doivent peut-être un peu là se dégager de « on voudrait qu'il guérisse ». On voudrait qu'il marche, qu'il parle comme les autres. Ah, Seigneur, l'amour qu'on a pour lui, toi, tu t'en saisis aussi pour que cet enfant puisse jouir de tous les bienfaits dont il a besoin par mes soins, par les soins de ceux que tu envoies auprès de lui. Et puis, on doit prier aussi pour que son cœur soit rassuré, pour qu'il entende le murmure de la voix de Dieu directement dans son petit cœur. Et j'ai vu aussi des situations où la prière a eu un impact quasi immédiat dans le regard de l'enfant, dans la façon dont il se tenait, cet impact de l'amour de Dieu qui va passer par une guérison autre peut-être que celle de la guérison physique, mais qui va libérer et l'enfant de quelque chose qui le condamne à une vie sans espérance et qui va permettre aussi aux parents de continuer à s'appuyer sur la grâce de Dieu.
Donc Françoise, pour récapituler, on prie pour ses enfants comme pour les autres enfants. On prie avec compassion et en rappelant à notre souvenir que ces enfants font l'objet de l'amour de Dieu, en repassant dans notre cœur les promesses qu'il y a pour chacun d'eux. Et puis on prie pour que ces enfants jouissent par nos soins d'une vie épanouie, quelles que soient les circonstances, puisque les projets de Dieu sont les mêmes pour ces enfants. Il y a un avenir, il y a une espérance.
Voilà, et puis avec aussi le temps de Dieu, là aussi, pour du concret. Je pense à Méphibosheth, dans les textes de l'Ancien Testament, un petit garçon qui commence très très mal sa vie au sein d'un drame, d'une guerre, et la servante s'enfuit avec ce petit garçon et elle le laisse tomber en voulant lui sauver la vie d'ailleurs. Et il devient boiteux des deux jambes, donc voilà, en situation de handicap, dans un petit village isolé, loin de tout. Et le roi David se rappelle de la promesse qu'il a faite au père de Méphibosheth. Je crois que Dieu rappelle à David qu'il reste certainement quelqu'un qui a besoin de lui. Et ça, c'est magnifique parce que je pense qu'aussi, on doit être attentif à ça. Quel est l'enfant qui reste au fond de la classe, dans un quartier isolé, dans un village, dans une maison, parce que les parents eux-mêmes n'ont plus d'espoir pour que cet enfant ait une vie normale. Comment aller les chercher comment les rejoindre et les asseoir à la table du roi. Mephibosheth est assis à la table du roi. Il bénéficie de tous ses mets, comme à la cantine, mais les meilleurs. Et la Bible nous dit que David, alors, va le considérer comme son fils. Il fait de lui son fils. Et il a donc la même liberté que les fils de David. Et Mephibosheth entre dans quelque chose de tout à fait nouveau. Il est réhabilité, son handicap est pris en compte, et en même temps, il a la possibilité de jouir pleinement de tous les droits d'un fils de roi. Et il est adulte maintenant, et ses enfants sont aussi au bénéfice de ce qui se passe pour lui. Et je crois qu'on a souvent comme ça des histoires de personnes qui, en situation de handicap, ont eu l'impression de tout perdre, où les parents étaient complètement démunis, et puis le chemin est long. Mais si chacun prend sa place dans ce processus d'accompagnement, de sensibilité aussi à la voix de Dieu au travers de la Bible, sensibilité à la voix de Dieu au travers de la prière, alors il se passe quelque chose qui nous permet d'avoir cette assurance que personne n'est oublié de Dieu. Personne. Mais peut-être que nous, on est plus oublieux que Dieu ne l'est. Et qu'on baisse les bras, qu'on tourne un peu la tête, ou qu'on ne fait pas l'effort d'aller chercher, ou de dire, oui, dans nos établissements protestants, on n'est pas des établissements spécialisés dans le handicap, mais il y a une place pour un Mephibosheth. Mmh. On se donne les moyens d'accueillir un ou deux élèves pour les asseoir à la table avec les autres petits princes, pour leur permettre d'accéder à tous les savoirs, à la cour du roi. C'est aussi à faire savoir.
Absolument. Donc on prie aussi pour du concret, pour que des solutions émergent, pour discerner les accompagnements à mettre en place. Et tu l'as souligné aussi, même quand on n'a pas de solution, même quand on se sent démuni et pas suffisant face au défi qui est devant nous, on a au moins la responsabilité d'accompagner, d'être en relation et d'offrir une présence et une écoute.
Cette présence, et là on dépasse le côté de l'éducation ou de l'école, mais simplement en parler, en avoir conscience, c'est aussi mettre en relation des gens qui vont peut-être assumer une mission que l'on ne peut pas faire nous-mêmes. Il y a des magnifiques œuvres chrétiennes qui accueillent des enfants, qui en prennent soin, qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et puis, il y a autour de nous des gens dans nos églises qui peut-être ont simplement besoin d'être sensibilisés aux besoins de la famille qui a un enfant polyhandicapé, qui est complètement démuni. Et si on entrait en relation avec Et si on venait raconter une histoire, mettre un peu de musique, laisser la maman aller faire ses courses le temps où on prend soin de son enfant. Alors oui, on devient tous ensemble des éducateurs, entre guillemets, qui transmettent un message d'espérance et qui vont pouvoir, dans ces temps particuliers, prolonger l'action d'une école qui ne peut pas accueillir, mais qui se soucie de ceux qui sont laissés pour compte, en mobilisant une armée peut-être, de gens sensibles.
Alors, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la communication avec les familles, avec les partenaires aussi dans la prise en charge des besoins spécifiques. Qu'en est-il de la communication avec le groupe classe qui va inclure un camarade avec des besoins spécifiques? Selon toi, Françoise, quel message mérite d'être partagé à la classe ou non?
Alors, toujours une parole libre. Le groupe classe a besoin de découvrir de quoi il est composé. C'est intéressant d'ailleurs de faire ce tour de table où chaque enfant s'exprime, mais où l'enseignant va aussi expliquer un petit peu la richesse de ce groupe classe. Où il y a des roses avec des épines, il y a des bleuets, il y a là des fleurs moins éclatantes. Parfois, il y a aussi des fleurs qui piquent un peu. Et ça va permettre de parler de la différence, du handicap, de façon générale. Et puis ensuite, aujourd'hui, est-ce que dans notre groupe classe, on peut prendre l'image des fleurs, par exemple, de tout ce qui nous entoure, qu'est-ce qui, dans le groupe classe, pourrait susciter une réaction particulière? Virginie, vous savez, Virginie, c'est un peu plus compliqué pour elle. Elle n'entend pas bien, donc elle parle parfois un peu trop fort. Virginie, tu permets que j'en dise un peu plus? Et puis là, on commence à travailler sur le handicap et comment, dans le groupe classe, on va le gérer. Il va bien falloir prendre soin de Virginie autrement. Et donc, toute la classe va devoir aussi se mobiliser. Mais ce n'est pas parce que Virginie va être au premier rang, par exemple, parce que la maîtresse va venir murmurer à son oreille la consigne pour être sûre qu'elle l'a bien comprise, qu'elle est la chouchoute de la classe. Mmh. Donc, les autres ont besoin aussi de comprendre qu'est-ce qu'on met en place, pourquoi il n'y a pas le même régime pour tout le monde, mais aussi un peu comme à la cantine, hein. Ah, allergique au gluten, à la même table, il y a un petit menu différent. Eh bien, dans le groupe classe, il y a des petits menus différents parce que on a au milieu de nous un enfant qui a besoin d'être pris en compte dans cette différence. Et la parole va être libératrice et va permettre aussi que le groupe ne soit pas victime de ce qui est parfois insupportable. Mmh. Il y a un moment où le groupe va aussi être mis à mal par les cris d'un enfant, par son débordement intempestif. Alors, il va falloir apaiser cet enfant et pouvoir gérer ça. Mais plus le groupe classe comprend aussi qu'à ce moment-là, il faut permettre à l'enseignant de calmer l'enfant et qu'eux aussi vont apprendre à poser une parole qui va désamorcer ce moment si difficile, le groupe classe devient collaborateur de cette prise en charge particulière et tout le monde en sort enrichi. Mmh. Alors, c'est un peu plus facile pour quelqu'un en fauteuil roulant, souvent. On met des mots, c'est visible. Les enfants vont apprendre à porter le cartable, à ouvrir la porte. Mais les handicaps invisibles et qui posent plus problème dans le comportement, dans la réaction à l'autre, ont besoin, au fond, qu'on apprenne aussi au groupe classe à tenir compte de cette réalité pour qu'ils puissent se protéger et qu'ils ne mettent pas en difficulté cet enfant qui a besoin d'un regard toujours bienveillant et contenant.
Source éducative. Un podcast original d'Essentiel Radio.
Je crois, Françoise, que toi, tu as eu une partie de ta scolarité en milieu ordinaire et puis tu as eu un passage à un moment donné dans un établissement spécialisé. Je crois que ça n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir de différent dans ton école ordinaire? Et qu'est-ce que tu aurais aimé avoir aussi de différent dans ce fameux institut si on pouvait en proposer une meilleure version dans les deux cas?
C'est une très bonne question. Je ne regrette pas mon parcours à l'école de la République sans aménagement particulier, mais j'ai des bleus à l'âme encore qui parfois me font monter les rougeurs et les larmes aux yeux parce qu'il n'y avait pas de prise en compte particulière de ce handicap et il fallait compenser absolument et ou réussir ou échouer. J'ai eu des enseignants, je crois, qui n'étaient ni maltraitants ni malveillants, mais incapables de pouvoir gérer leur classe tout en m'apportant ce dont j'avais besoin de nécessaire pour suivre le cours. Donc, je ne les en blâme pas, mais les souffrances, elles, je les ai portées, elles ont impacté ma vie. Donc, déjà, permettre aux enseignants de pouvoir parler de leurs limites et de ce qui fait que c'est difficile. Ça ne bouscule pas les mêmes choses en nous, hein, le handicap de l'élève que l'on accueille. Donc, je plaide vraiment pour qu'on puisse travailler avec ça. Pourquoi il ne peut pas, il faut le former. Mais il y a vraiment besoin aussi d'une prise en compte réelle du besoin des enseignants et des auxiliaires de vie scolaire qui ne peuvent pas non plus être contraints à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire si on ne leur donne pas les moyens et si on n'est pas à l'écoute, parce qu'alors, à ce moment-là, les enfants sont victimes. Donc, vraiment, cette prise en compte de l'ensemble.
Et côté institut spécialisé, qu'est-ce qui t'a
alors,
manqué
oui,
le
quoi,
plus
hein, mes enseignants au collège, les profs disent « on ne peut plus, c'est plus possible, on n'a pas les moyens ». Donc, établissement spécialisé obligatoire, je me retrouve dans une école d'aveugles et amblyopes, dans un monde de handicapés. Alors, je sais bien que j'y suis parce que je suis aussi comme eux, hein, dans ma petite tête d'adolescente. Et en même temps, je ne me reconnais pas. Pour le coup, je ne me reconnais pas dans la façon dont ils fonctionnent, dans tout ce qui est organisé. Et tout est pris en charge pour pas qu'on se blesse, pour pas qu'on tombe, avec des guides dans les couloirs. Et là, j'ai l'impression d'être dans une autre planète, dans un autre monde, qu'on me soustrait au monde dans lequel j'ai évolué, difficile, parfois un peu cruel.
Mais autonome.
Mais autonome. Et puis en relation avec des gens boiteux, en fauteuil roulant, malentendant, qui ne voyaient pas bien, et qui allaient bien, et qui couraient vite, et tout ça, voilà, on arrivait quand même à faire. Et là, c'était le monde des aveugles. Je devenais plus aveugle que je ne l'étais, et moins autonome que je ne l'avais jamais été. On m'a mis une canne blanche dans les mains, un peu rebelle. Je l'ai prise sur mon genou et je l'ai cassée. Je l'ai rendue. Et j'ai dit, je préfère, moi, me payer les portes que de déambuler avec une canne blanche. Et je pense que là aussi, ça nous renvoie à cet équilibre entre l'adaptation complète et nécessaire pour favoriser l'autonomie sans jamais isoler la personne en situation de handicap du monde dans lequel elle doit vivre. Et là, je crois, on a parlé un peu des agendas partagés où on a à inventer sur ces lieux où on prend en charge l'enfant pour répondre à des besoins et où on facilite ses apprentissages et des moments où il peut véritablement vivre sa vie d'élève ou au fond même, parfois, hein, son handicap devient pédagogique pour le groupe. Alors ça se fait beaucoup avec l'autisme hein, aujourd'hui, mais ça a besoin d'être élargi et il y a besoin peut-être aussi de partenariats hein, entre les écoles, entre les associations et les écoles pour vivre de belles choses et permettre à ces enfants de ne pas se sentir hors jeu. D'ailleurs, j'ai quitté l'école en troisième, quoi. il fallait que j'aille après à la VH à Paris et là j'ai dit ah, non merci, pas pour moi.
Et du coup, tu as décidé d'entrer dans la vie professionnelle.
Alors, c'était d'autres galères, mais je crois que Dieu a ouvert aussi mon chemin et que j'ai repris les études en dehors du milieu scolaire pour continuer à me nourrir et à apprendre. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'autre chemin. En tout cas, moi, dans ce que j'étais, je n'étais pas capable de continuer ma scolarité dans une inclusion totale où il me manquait tout un tas d'éléments pour bien apprendre. Ni dans un établissement spécialisé où j'étais privée de cette vie sociale avec des gens différents de moi et où le partage et l'expression de tout ce que nous pouvions mettre en commun était possible.
Source éducative. Un podcast original d'Essentiel Radio.
Alors Françoise, en t'entendant nous partager ton histoire et ta réflexion, je crois qu'on peut facilement dire que la scolarisation des enfants en situation de handicap reste un énorme chantier. Pour l'école du 21e siècle, comment devenir une école plus hospitalière, au sens étymologique du terme, sans pour autant devenir une école hôpital qui, en essayant d'accueillir sans restriction, sans condition, finirait par ne plus être accueillante pour personne. Le grand message de cette émission, c'est quand même qu'il faut que l'école apprenne autant que possible à s'adapter au handicap. On a déjà évoqué la piste de la formation des équipes enseignantes, celle aussi de l'ouverture de ces équipes à d'autres métiers, à d'autres fonctions qui vont permettre de mieux prendre en charge les besoins des enfants. Est-ce que tu penses qu'une dernière proposition pourrait être de tendre vers l'emploi de davantage de personnes porteuses de handicap dans nos écoles, dans nos structures, des personnes qui seraient un peu comme des ambassadeurs, des représentants du handicap et qui viendraient aussi à nous encourager à davantage d'hospitalité?
Ah ben je pense que ce serait une excellente chose hein, quand un salarié ou un bénévole. Mais en tout cas, c'est une vraie richesse. Quand je déambule, moi, dans l'école du Petit Prince, école protestante dans le Val d'Oise avec ma canne blanche, je pense que c'est encourageant pour les enfants. Ça les stimule. On peut avancer et se construire. Et c'est aussi un encouragement pour les parents. Je pense qu'on a des exemples comme ça de gens en situation de handicap qui ont évolué et qui peuvent être d'abord témoins de ce qui est possible, mais qui doivent aussi pouvoir prendre leur place dans ces établissements-là. Alors, ça peut être dans un atelier, ça peut être dans une mission plus régulière, mais en tout cas, on ne peut pas parler du handicap et de tout ce qu'on vient d'aborder sans, dans nos écoles, inclure des gens qui ont franchi les étapes et qui peuvent dire quelque chose de ce qu'ils ont vécu et être pour les enfants aussi comme quelque chose qui rend possible l'impossible.
Source éducative, un podcast original d'Essentiel Radio.
Merci beaucoup Françoise pour le temps que tu nous as accordé encore aujourd'hui et la générosité dont tu fais preuve dans tes partages qui certainement vont faire bouger les lignes du côté de nos auditeurs et nous aider à changer de regard sur le handicap à l'école. Alors avant de te quitter, j'aimerais te demander un dernier message qui nous permettrait peut-être de dézoomer un peu de la question scolaire qui préoccupe toujours beaucoup de familles mais qu'il est aussi important de savoir ramener à sa juste place.
Alors, la Bible nous dit « Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde ». Et je crois que ce verset, il n'est pas d'abord que pour les chrétiens. Il est pour chaque être humain, c'est une proposition que Dieu nous fait d'être présent à nos côtés de façon peut-être impalpable, invisible, mais réelle. Et que la vie est une course de handicap. Et que peut-être personne n'échappe à cette frustration ou ce sentiment à un moment ou à un autre d'être incapable de faire pour des raisons physiques, psychiques ou contextuelles, sociales même. et que le handicap, donc, nous traverse tous à un moment ou un autre et nous pénalise tous, mais Dieu est avec nous. Et puis, dans son amour, il a mis autour de nous des aidants, des gens qui peuvent nous donner la main et nous permettre de nous sentir plus forts dans cette entraide mutuelle. Et puis, je voudrais m'adresser particulièrement aux personnes qui souffrent d'un handicap important, parce que je ne veux pas banaliser non plus ce qui peut être au quotidien extrêmement difficile, douloureux pour les adultes en situation de handicap, mais aussi pour ses parents qui ont des enfants polyhandicapés, des enfants qu'il faut prendre en charge complètement dans tous les domaines, et qu'il est aussi nécessaire de ne pas oublier que dans ces moments-là, Dieu est là, que la prière est le mode de communication avec Dieu, qu'il peut aussi apaiser les souffrances d'un enfant, d'un adulte, et nous donner les moyens de traverser ce chemin si particulier en comptant sur la grâce de Dieu, mais aussi en nous appuyant sur des hommes et des femmes de foi qui sauront apporter un peu de répit, qui sauront prier, qui sauront soutenir. Et je crois que vraiment il y a une guérison de nos blessures profondes possibles dans cette démarche de foi et d'ouverture aussi à l'Église, qui n'est pas une institution, mais vraiment un lieu où des hommes et des femmes de foi mesurent à quel point, ensemble, ils peuvent mieux parler à Dieu et mieux transmettre l'amour de Dieu en paroles et en actes.
Eh bien, Françoise, merci pour ta présence en studio aujourd'hui. Et merci de nous inspirer à toujours mieux prendre soin des autres. On aura le plaisir de te retrouver pour d'autres discussions en studio.
Ben j'espère. À bientôt, en tout cas.
D'ici là, on peut retrouver cet épisode de Sources éducatives ainsi que les précédents sur le site essentielradio.com et sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes ou encore Google Podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sources éducatives.
Sources éducatives, un podcast original d'Essentiel Radio. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.